Oui, ce matin, j'aimerais prendre un texte qui parle du moment où Jésus est encore tout au début du ministère, mais il revient à Nazareth. Vous savez, c'est là qu'il a grandi. Donc, à un moment donné, il revient là, et j'aimerais lire déjà les deux versets en Luc chapitre 4, 14 et 15. Jésus, rempli de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Sa réputation se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tous faisaient son éloge. En fait, c'est un gros résumé que Luc il fait ici d'un temps où Jésus a tourné dans cette région. Il ne rentre pas dans les détails, mais il le situe juste après avoir été dans le désert et avoir été tenté. Et je trouve c'est intéressant que Jésus a reçu vraiment la puissance de l'Esprit et on voit dès le début de son ministère qu'il avance et qu'il fait les choses d'une manière exceptionnelle. Tous faisaient son éloge. C'est beau. Malheureusement, ça reste pas très longtemps dans cette généralité-là que tous faisaient son éloge. Bientôt, il y a d'autres voix qui vont se lever. Mais en tout cas, Luc, il montre que Jésus arrive à Nazareth et il rentre dans la synagogue, comme il en a l'habitude. On peut lire à partir du verset 16, si vous voulez bien. 16 à 30. Il se rendit aussi à Nazareth, où il avait été élevé. Et il entra dans la synagogue le jour du sabbat, comme il en avait l'habitude. Il se leva pour faire la lecture biblique. Et on lui présenta le rouleau du prophète Isaïe. En déroulant le parchemin, il trouva le passage où il est écrit: L'Esprit du Seigneur repose sur moi, parce qu'il m'a désigné par onction, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la délivrance aux opprimés, et pour proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. Il roula le livre, le rendit au servant et s'assit. Dans la synagogue, tous les yeux étaient braqués sur lui. Aujourd'hui même, commença-t-il, pour vous qui l'entendez, cette prophétie de l'Écriture est devenue réalité. Aucun de ses auditeurs ne restait indifférent. Le message de grâce qu'il leur présentait les étonnait beaucoup. Aussi disait-il, n'est-il pas le fils de Joseph? Alors il leur dit, vous ne manquerez pas de m'appliquer ce dicton. Médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, on nous a parlé de ce que tu as accompli à Capernaüm. Fais-en donc autant ici, dans ta propre ville. Et il ajouta, vraiment, je vous l'assure, aucun prophète n'est bien accueilli dans sa patrie. Voici la vérité, je vous le déclare. Il y avait beaucoup de veuves en Israël à l'époque d'Élie, quand, pendant 3 ans et demi, il n'y a pas eu de pluie et qu'une grande famine a sévi dans tout le pays. Or, Élie n'a été envoyé vers aucune d'entre elles, mais vers une veuve qui vivait à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi beaucoup de lépreux en Israël, au temps du prophète Élisée. Et pourtant, aucun d'eux n'a été guéri. C'est le Syrien Naaman qui l'a été. En entendant ces paroles, tous ceux qui étaient dans la synagogue se mirent en colère. Ils se levèrent, entraînèrent Jésus hors de la ville, jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle elle a été bâtie, afin de le précipiter dans le vide. Mais il passa au milieu d'eux et s'en alla. On peut lire quelques versets aussi du texte parallèle en Matthieu, qui est un tout petit peu plus court. Je lis à partir du verset 54, Matthieu 13. Il retourna dans la ville où il avait vécu. Il enseignait ses concitoyens dans leur synagogue. Son enseignement les remplissait d'étonnement, si bien qu'il disait « D'où tient-il cette sagesse et le pouvoir d'accomplir ces miracles ? N'est-il pas le fils du charpentier ? N'est-il pas le fils de Marie et le frère de Jacques, de Joseph, de Simon et de Jude ? Ses sœurs ne vivent-elles pas parmi nous ? D'où a-t-il reçu tout cela ?» Et voilà pourquoi ils trouvaient en lui un obstacle à la foi. Alors Jésus leur dit, c'est seulement dans sa patrie et dans sa propre famille que l'on refuse d'honorer un prophète. Voilà notre texte. Donc Jésus a l'habitude d'aller dans la synagogue. Il a l'habitude de vouloir adorer le Seigneur, d'entendre la parole, parce qu'à l'époque, bien sûr, il n'y avait pas chacun qui avait des rouleaux de l'écriture à la maison. Donc, il fallait bien un endroit qu'il soit lu, et c'était donc chaque sabbat que la parole a été lue, et pendant les fêtes, bien sûr. Et donc, c'est Jésus qui se lève pour lire la parole. Se lever, c'est aussi une manière de respect. Et il cherche Ésaïe 61, 1 et 2. Et je trouve que c'est significatif parce qu'en fait, on voit que Jésus connaissait bien la parole et il savait déjà très bien à qui elle s'appliquait et quel était son ministère. Donc je conclus que Jésus est intentionnel. Il le fait exprès. Et aussi après, il s'assoit. Et donc tous attendaient qu'on enseignait. Il se met au même niveau que les gens pour enseigner. C'était à l'époque la coutume des rabbins. Donc Jésus est intentionnel, mais il ne cherche pas la renommée. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils cherchent ? Le spectaculaire. Et en donnant le message, ou en lisant ce texte de Ésaïe 61, on voit bien quelle est l'intention du Messie qui a été annoncé. C'est un texte messianique. Loin, il n'y avait que deux personnes qui étaient loin, sur lesquels on faisait l'onction à l'époque, c'était le souverain sacrificateur et le roi. Jésus est les deux. Donc, il représente ainsi loin de l'Éternel d'une manière toute particulière. Et à l'époque de Jésus, ils n'avaient pas de roi. Ils avaient un souverain sacrificateur, mais pas de roi. Donc, c'est intéressant qu'ils lisent ce texte aussi. Ça a déjà dû les châtier un tout petit peu. Mais il est là et il annonce la bonne nouvelle, mais le texte, en fait, il continue. Et il ne lit pas tout. C'est intéressant. Jésus ne lit pas la petite phrase qui continue « Et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. » Et on voit dans les prophètes, c'est souvent comme ça, il y a plusieurs accomplissements qui sont l'un dans l'autre. Et ici, la première partie, c'est bien ça que Jésus va faire en ce moment-là. Mais la deuxième partie viendra plus tard. Hein, c'est pour ça qu'il ne l'a pas lu, sinon il n'aurait pas pu dire « c'est accompli aujourd'hui ». Donc on voit bien que Jésus connaissait son mandat, il connaissait qu'est-ce qu'il devait faire, qu'est-ce qu'il devait dire. mais il était là pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Et vous pouvez lire tout le Nouveau Testament ou tous les évangiles, et vous voyez toujours à nouveau comme il a la bonne nouvelle pour les malheureux. Et je trouve c'est de là aussi que le chrétien s'inspire pour transmettre la bonne nouvelle aux malheureux et s'occuper de ceux qui sont malheureux. Il est aussi venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ça, on en trouve beaucoup aujourd'hui. Donc, Jésus est venu pour ça. Et donc, ça a toute son actualité encore aujourd'hui. Il est venu pour proclamer aux captifs la liberté, comme nous avons entendu dans l'introduction. La liberté par la grâce, parce que nous sommes délivrés du fardeau de notre péché, de notre désespoir. Ouais. En tout cas, Jésus leur présente clairement cette promesse et avec toutes ces belles choses qui sont incluses dans cette promesse. Et cette promesse était attendue de tous les Juifs. Et sur ces points-là, tous les Juifs sont d'accord, n'est-ce pas? Qu'il a reçu l'onction de l'Esprit, ça ils peuvent, je crois, admettre, puisqu'il guérit quand même pas mal de personnes. Qu'il annonce la bonne nouvelle, oh, ça c'est une bonne chose, n'est-ce pas? On est OK. Penser les cœurs blessés aussi, on n'a rien contre. Annoncer la délivrance, ben c'est encore mieux, et proclamer un temps de grâce. Tout le monde est OK avec ça. Mais il va plus loin. Jésus l'applique à lui-même. Alors ça leur tombe dessus comme un éclair. Ils attendaient que ça viendra hein, plus tard, quand le Messie viendra, quand il chassera les Romains. Mais il dit, c'est maintenant, c'est là, je suis avec vous, je suis loin de l'Éternel, je suis le Messie annoncé par Jean Baptiste. C'est moi qui suis devant lui, devant vous. C'est moi qui ai celui qui apporte la grâce et la délivrance. Donc les Juifs n'avaient pas de problème avec un Messie futur, mais un Messie présent, qui n'était pas comme ils l'ont imaginé, ça leur posait un problème. Et je trouve que c'est encore aujourd'hui souvent comme ça, les gens s'attendent à un Jésus qui les délivre, mais s'il ne fait pas tout à fait ce qu'ils souhaitent ou ce qu'ils attendent, c'est parfois compliqué. Et on a tous ce cœur un peu ou beaucoup tordu hein, que le Seigneur doit redresser, il doit le ramollir, il doit le former pour que nous ayons un cœur comme lui. Il voudrait que nous ayons à cœur. Donc Jésus parle non pas de la délivrance des Romains, mais de la grâce, être libéré du péché. C'est ça l'enseignement de Jésus-Christ. Et en fait, on voit dans ce texte ces deux éléments. D'un côté, on voit l'étonnement, la joie, les éloges, la bonne réputation. Et de l'autre côté, on voit l'opposition, la critique et même la haine. Et c'est comme aujourd'hui encore, c'est la même chose. Ils attendaient vraiment les miracles, et c'est pour ça que Jésus cite aussi ce proverbe, « Médecin, guéris-toi toi-même ». Donc, ça l'amènera bien sûr à bien plus tard. Mais, en fait, Il s'attendait à ce qu'il fasse des miracles comme il en a fait à Capernaum et dans les villages autour. Un peu en disant, mais ce que tu as fait aux autres qui sont loin, ben tu peux le faire aussi à ceux qui sont proches. Fais-le ici. Mais Jésus sait, il décerne cette attente. Et il ne dévie pas de sa mission. Jésus les surprend, comme souvent il nous surprend. Et il met en garde de le rejeter prématurément, de le rejeter avant d'avoir vraiment compris qui il est. Parce que, en fait, ils le connaissaient bien, ils avaient grandi à côté de lui. Une bonne partie de ceux qui étaient dans la synagogue, ils les connaissaient peut-être depuis 30 ans. Donc, et c'est ça qui donne aussi les réactions. Deuxième point, les réactions des gens. Aucun ne reste indifférent, nous dit le verset 22. Intéressant. Et c'est encore aujourd'hui, quelque part comme ça, Jésus ne laisse pas indifférent. Les uns sont pour, les autres contre, mais très indifférent, c'est pas très répandu, je pense, selon ma manière de voir, de percevoir. Il y en a qui l'ignorent, c'est aussi un rejet. Mais il y en a certains qui sont émerveillés. C'est chouette d'être émerveillé de ce que Jésus fait. Mais on verra tout à l'heure que ce n'était pas suffisant. Parce qu'au final, ils se sont laissés entraîner avec les autres pour mettre Jésus dehors. Et même pire que ça, ce qu'ils voulaient faire. Mais je trouve c'est important que nous aussi, nous soyons émerveillés. Émerveillé de Jésus, émerveillé de ce que Jésus fait, de ce qu'on peut vivre avec lui. Mais très rapidement, il y a des gens qui regardent ses origines. Ils disent, ben, d'où est-ce qu'il a cette sagesse? C'est un gars d'ici, c'est pas quelqu'un d'exceptionnel. Ils regardent sa famille terrestre. Et trébuchent dans leur foi, à la place de lui faire confiance. Ses parents étaient modestes, donc pas quelqu'un d'exceptionnel. Il n'était que le fils de Joseph, un charpentier, sans grand renom. Peut-être il était déjà décédé à cette époque, on ne sait pas. En tout cas, on ne voit plus Joseph mentionné très rapidement après. Les 12 ans de Jésus, on ne voit plus Joseph. Donc, c'est pour ça qu'on suppose qu'il n'était plus là. Mais, ils disent en même temps, on regarde les origines, mais Jésus, tu pourrais changer ça. Alors, fais des miracles. Fais des miracles. Et ils s'attendent à ce que Jésus fasse comme il le pense. Il pourrait le prouver par les miracles. Et cette pensée séduisante le poursuivra tout au long de son ministère, jusqu'à la croix. Pour appeler à la croix, ils disent, ben, descends de la croix si tu es quelqu'un d'exceptionnel. Encore, ils veulent le miracle. Mais ils ne veulent pas croire en réalité. Donc, on voit la réaction des gens, mais on voit aussi la réaction de Jésus. Au verset 58 de Matthieu 13, on a lu, aussi ne fit-il là que peu de miracles à cause de leur incrédulité. Il les confronte à leur incrédulité. Ils veulent des preuves, pas avoir la foi. Ils veulent le spectaculaire, pas changer de vie. Ils veulent profiter, pas se mettre en question. et il enfonce le clou, Jésus, en disant « Le prophète n'est pas bien accueilli chez lui. » Et surtout, il se réfère à l'histoire. Il se réfère à Élie et à Élisée, deux prophètes bien connus en Israël. Et il leur dit, mais en fait, Élie, le miracle, c'était pour quelqu'un d'étranger, c'était une étrangère, c'était pas une femme israélite. Et Élisée, le Syrien, c'est aussi un étranger. Donc, ils dévoilent leurs intentions, leur attente figée et centrée sur eux-mêmes, à la place de s'ouvrir et d'être prêt à écouter et à voir que Dieu veut aller beaucoup au-delà de leur petite sphère dans laquelle ils se sont enfermés. Et ainsi, Jésus dévoile donc leurs attentes et Jésus leur résiste. Donc, je crois que ce n'est pas pour rien que Luc met ce texte juste après la tentation. Jésus a résisté au diable pour ne pas faire ce qu'il a suggéré. Lui aussi, il a suggéré des miracles. Hein, le pain, viens-tu Pierre, mais fais-en du pain, comme ça t'as plus faim. Utilise la force qui est en toi pour toi, Jésus. Et Jésus dit non. Et ici, il résiste aussi. Il résiste aux amis d'enfance. Et je dirais, il est aussi dans une culture familiale où les jeunes avaient à se soumettre aux anciens. Donc, il résiste aussi à la tentation de se soumettre là où il ne faut pas se soumettre. Parce que ce que les anciens disent n'est pas que toujours bon. Parfois, c'est bien que nous, les aînés, on se mette aussi en question. Jésus n'a rien à prouver. La réussite de son ministère ne dépend pas de l'approbation des autres. Il est sûr de son appel. Donc Jésus se résiste et en se référant à l'histoire avec ces deux bénédictions que Élie et Élisée accordent à ceux qui sont au loin, il montre que les étrangers sont aussi dans le plan de la faveur de Dieu et sont bienvenus. Mais à l'époque, comme aujourd'hui, souvent les étrangers ne sont pas bienvenus, de plus en plus. Mais dans tout cela, on voit quand même que on voit le message de Jésus, en fait. La veuve, elle a dû accepter ce miracle. Elle a dû accepter de faire d'abord un pain pour le prophète, et c'était tout ce qui lui restait, de la farine et de l'huile. Et elle a accepté. Naaman a dû croire. D'abord, il ne voulait pas. Et il a écouté une petite fille. Non, ses serviteurs, pardon. Ses serviteurs qui lui ont dit, « Mais si tu avais demandé quelque chose de difficile, tu le refais. Si tu demandes quelque chose de facile, fais-le. » Et il a été guéri. Il a cru et il a été béni. Et le message de Jésus est aussi comme ça. On va se tourner vers lui et croire et faire confiance. Si on refuse de croire, ben, il y a des conséquences. La bénédiction, la bonne nouvelle, elle sera pour d'autres. Si les gens, les juifs, ne se considèrent pas comme pauvres et dans le besoin, ben, il y a d'autres qui seront enrichis. On retrouve la même pensée dans les béatitudes. Si réalisent pas qu'ils sont captifs, il y a d'autres qui seront libérés. Et ça nous concerne aussi. Si on ne voit pas qu'on est aveugle, malvoyant, il y a d'autres qui verront la guérison. Si on ne reconnaît pas d'être opprimé ou chargé, la grâce sera pour d'autres. Donc la question c'est, est-ce qu'on accepte Jésus ou on le rejette? Donc Jésus met en lumière, en fait, leur colère face à la grâce. Ils ne sont pas d'accord que la grâce s'accorde aux autres, que la grâce s'accorde aux étrangers. Ils la voulaient pour eux-mêmes. Et à ce moment-là, ils deviennent malheureusement violents. Le salut pour les étrangers, ça veut dire qu'il est un faux prophète. Dehors! Et je trouve ça intéressant. Jésus se laisse faire. Jésus se laisse éjecter, entre guillemets, de la synagogue. Et ils sont prêts à le tuer. Mais en fait, ils n'avaient pas le droit de le tuer. Il y avait les Romains qui décidaient de la mort de quelqu'un. Donc, trouve une solution. Ils veulent le prendre en haut sur la colline et le précipiter. Comme ça, c'est un accident. Mais non, ça ne marche pas leur plan. Et je trouve, c'est très fort, le verset 30 dans Luc 4. Mais il passa au milieu d'eux et s'en alla. Non, Jésus n'a pas trouvé un petit chemin que eux ils ne connaissaient pas, où il a pu se sauver. Il passe au milieu. Ça veut dire qu'à un moment donné, c'est qu'ils étaient comme paralysés. Sinon, ils n'auraient pas pu passer à travers une foule furieuse sans qu'ils fassent ce qu'ils voulaient faire. Donc, on voit que Jésus il part. Et ça, je trouve, c'est peut-être le plus dramatique dans ce texte qu'on peut lire. Il y a bien des commentateurs qui pensent que Jésus n'est plus jamais retourné à Nazareth. C'est possible. Il est parti. Ils ont eu leur chance et ils n'ont pas voulu se repentir. Ils n'ont pas voulu accepter que la grâce leur vient à travers de Jésus. Et cela nous concerne. Le récit résume la vie de Jésus. Il y a des gens qui sont insatiables de miracles, mais ils trébuchent sur l'identité de Jésus-Christ, qui est homme et Dieu. Et c'est ce refus qui l'a conduit aussi à la croix. Parce qu'il ne voulait pas un Dieu qui soit proche. Un Dieu qui regarde leur vie. Un Dieu qui leur dit ce qui va de travers. Un Dieu qui les sort de leur misère. Il préférait le train-train agréable dans le péché. Et la question se pose à nous. Pardon. Qu'est-ce que nous faisons de Jésus? Où est-ce que nous en sommes? Les gens voulaient des preuves, pas la foi. Ils voulaient le spectaculaire, pas changer de vie. Ils voulaient prophéter, pas s'interroger. Et je crois que c'est un danger pour l'Église aujourd'hui. De vouloir le spectaculaire, sans que je refuse, bien sûr, que Jésus agit des fois d'une manière spectaculaire. Et on peut s'attendre à ce que Jésus intervienne aussi à Saint-Quentin, peut-être par le magasin éphémère. Qu'est-ce qu'on sait? Où Jésus veut poser sa bonne main, sa bénédiction pour interpeller des gens, pour les transformer. La question, c'est pour moi, est-ce que j'ai, moi, des attentes à Dieu? Des attentes qui pourraient me bloquer. Il y a aussi des attentes qui sont bonnes, bien sûr. Quand on s'attend à ce que Dieu nous parle, quand on lit sa parole, c'est des bonnes attentes. Et je trouve Ésaïe 61 a bien des bénédictions qui sont aussi pour nous. Je vais conclure. Jésus est intentionnel dans nos vies. Est-ce que nous en sommes conscients? Toute chose que nous vivons, Jésus est intentionnel. Il laisse rien au hasard, moi j'en suis convaincu. Il y a bien des gens qui sont en colère contre Dieu parce qu'ils ne comprennent pas quelque chose qui se déroulait différemment de ce qu'ils voulaient ou ils auraient désiré dans leur vie. Si Jésus est intentionnel, c'est qu'il a un plan et c'est qu'il veut nous porter à travers les moments qui sont peut-être compliqués, qui sont difficiles. Quelle est ma réaction face aux imprévus? Est-ce que je crois en Jésus-Christ? Et comme ça, je peux vivre aussi la bénédiction. La bénédiction que lui donne, même si elle est différente de mon imagination. Et je peux voir aussi le message de grâce. Est-ce que je peux voir aussi le message de grâce de Jésus? De grâce pour moi et l'accepter et me réjouir de cette grâce qui accorde aussi le salut éternel. Et aussi, la dernière chose, que je peux vivre de sa grâce et aussi l'annoncer. C'est le message que Jésus nous confie de la grâce de Dieu. J'aimerais encore prier.